À Nîmes, de Route d'Arles à Croix de Fer, des Capitelles au Mas de Mingue, France Bleu Gard-Lozère, écoutez, on est bien ensemble.
Dans les experts aujourd'hui, jeudi, nous nous intéressons au logement avec Yves Morel de l'ADIL qui est notre expert. L'ADIL, c'est l'agence départementale d'information sur le logement. Vous avez besoin de conseils car vous êtes locataire ou encore propriétaire. Vous voulez calculer les charges à récupérer sur votre locataire. Ça, c'est si vous êtes propriétaire, bien sûr. Mais dans le cas où vous êtes locataire, comment calculer votre loyer et comment va-t-il être augmenté surtout? Vous avez des questions? Yves Morel y répond aujourd'hui dans les experts au 04 66 21 36 37. Et Yves Morel, d'ailleurs, concernant cette hausse des loyers, il y a un indice de référence des loyers et il y a une actualité.
Alors, on pourra peut-être plus parler de hausse parce que justement, l'indice de référence des loyers qui est publié tous les trimestres, alors en rappel, je viens régulièrement égrener à cette antenne lorsqu'il paraissent les indices qui permettent pour un propriétaire de réévaluer, donc d'indexer son loyer. Donc, le dernier indice, c'est l'indice du deuxième trimestre 2015 qui a été publié fin juillet au Journal officiel. Et ce qu'on note, c'est que pour la première fois, le pourcentage d'augmentation qui résulte de cette variation sur un an, donc ce qu'on pourrait appliquer à un loyer pour l'augmenter, passe en dessous des 0,1%, puisque très exactement, le chiffre de réévaluation que donne cette indexation est de 0,08%. Non pas 8%, non pas 0,8%, mais 0,08%.
Ah ouais, incroyable.
Alors, en pratique, si par exemple vous aviez un loyer de 800 euros, l'augmentation à appliquer en fonction de ce dernier indice donnerait à peine 64 centimes de majoration. Donc on comprend pourquoi beaucoup de propriétaires actuellement renoncent à augmenter le loyer lorsqu'ils ont un locataire en place, parce que la variation de l'indice est vraiment très très basse.
Et lorsqu'on a un locataire en place et lorsqu'on est propriétaire, on est obligé de respecter cet indice?
Alors c'est un plafond, rien n'oblige à l'appliquer en clair, mais on ne peut évidemment pas passer au-dessus. Alors rappelons que si le loyer lui est plafonné, les charges ne le sont pas, puisque les charges sont en fait la récupération de montants que le propriétaire a dû lui-même engager. Par exemple, si votre consommation d'eau ne fait pas l'objet d'un compteur individuel à votre nom, donc le propriétaire va devoir récupérer auprès du locataire ce qu'il a lui-même dû payer à la société d'affermage de l'eau. Et ça, ce sont des sommes qui augmenteront sans plafonnement. C'est la réalité des sommes engagées qui viendront augmenter les provisions sur charge. Par contre, le loyer, lui, il est indexé. On ne peut pas aller au-delà de l'indice de référence des loyers.
Alors ça fait partie de l'actualité, à savoir l'indice de référence des loyers. Et parmi les autres actualités, il y a la loi Macron.
Alors, c'est vrai que la loi Macron est connue pour tout le volet concernant la croissance et l'activité économique, mais comme souvent, dans un texte de loi, on trouve ce qu'on appelle des cavaliers, c'est-à-dire des petits textes qui viennent réformer d'autres textes de loi, et notamment concernant le logement, il y a quelques articles qu'on trouve dans cette loi donc Macron, qui est publiée, je vous le rappelle, au Journal officiel du 6 août 2015, et on trouve notamment un article concernant l'état des lieux, le problème de l'état des lieux, qui avait été modifié, rappelons-nous, l'année dernière, par la loi Allure, la loi du 24 mars 2014, et qui prévoyait notamment que le locataire disposait d'un délai de 10 jours après l'établissement de l'état des lieux pour demander au propriétaire certaines rectifications. Alors, ce que la loi Macron est venue préciser, c'est que ce délai de 10 jours, évidemment, ne s'appliquait qu'à l'état des lieux d'entrée. On ne peut demander une rectification dans ce délai maximum de 10 jours que lorsqu'on vient de rentrer dans le logement et de rédiger l'état des lieux initial. Par contre, l'état des lieux de sortie, lui, ne peut pas faire l'objet d'un délai de rétractation ou de modification. C'est quand on rend les clés qu'on a édité l'état des lieux et on ne peut plus ensuite le modifier.
Vous voulez poser vos questions à Yves Morel de l'ADIL, l'agence départementale d'information sur le logement, en tant que propriétaire, en tant que locataire, par exemple, vous avez aussi des besoins d'informations sur la mitoyenneté, sur votre voisinage, sur un bail de location. C'est simple, appelez maintenant le 04 66 21 36 37 dans les experts.
Tu me fais tourner la tête. Mon manège à moi, c'est toi. Je suis toujours à la fête. Quand tu me tiens dans tes bras, je ferai le tour du monde. Que ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde pour m'étourdir autant que toi. Ensemble. problème. Car c'est pour la vie qu'on s'aime. Et s'il n'y avait pas advie même, on s'aimerait. La tête, mon manège à moi, c'est toi. Je suis toujours à la fête quand tu me tiens dans tes bras. Je ferai le tour du monde, que ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde.
Cet été, dans les arènes de Nîmes, aux côtés de Christine and the Queen, c'était Étienne Dao, Mon manège à moi, sur France Bleu Gard-Lozère. Et on fait la route ensemble sur France Bleu Gard-Lozère. Un coup d'œil à vos conditions de circulation actuellement sur le réseau autoroutier. Il y a quelques difficultés de circulation. Ça ralentit sur l'autoroute A9 dans le sens Montpellier-Nîmes jusqu'après la sortie 28, la sortie Vendargues. Et sur le réseau secondaire actuellement, un point de blocage à signaler. C'est sur la route de Beaucaire dans le sens vers Nîmes. Il y a 3 minutes environ de ralentissement. Donc adaptez votre vitesse, respectez les distances de sécurité. Et vous avez plus d'infos et l'état du trafic sur francebleu.fr. Notre expert du jour est Yves Morel de l'ADIL, l'agence départementale d'information sur le logement. Que vous soyez propriétaire ou locataire, venez poser vos questions au 04 66 21 36 37. Et c'est le numéro de téléphone qu'a composé André. Bonjour André.
Oui, bonjour monsieur, bonjour l'équipe, voilà.
Bonjour.
Voilà, ma question c'était, souvent j'en reviens, j'ai des bons locataires dans ma vie, j'ai des mauvais locataires, et autour de moi, les propriétaires, souvent on se sent seul quand on a un mauvais locataire. Mmh. Alors je trouve qu'un client qui va dans un hôtel contre Nîmes, par exemple, que pendant un jour ou deux il ne paye pas son hôtel, l'hôtelier a le droit de prendre la gendarmerie, enfin la gendarmerie, la police, pour le faire partir. Ça veut dire qu'il ne paye pas sa chambre. Nous, par contre, le propriétaire, on est obligé de prendre une procédure qui dure de l'argent, parce que ça nous rembourse, ça dure un an ou deux. On va se renseigner chez vous, à Dille, vous avez des très beaux bureaux.
Oui, vous êtes très bien. Merci.
Mais c'est sûr que...
C'est surtout les juristes dans les bureaux qui sont
importants. Vous défendez toujours, malheureusement, le plus pauvre, c'est normal. On croit que le propriétaire est le riche, mais on n'a pas de procédure, voilà. On devrait que, il y a des gens qui sont malhonnêtes, c'est comme un vol. Ils s'installent, ils veulent pas payer, pour moi c'est comme un vol, ils volent un œuf, ils volent un loyer, et donc on devrait faire appel à la police pour les remettre en ordre, parce que ils s'en vont, ils vont un village à côté, ils font pareil, ils recommencent, donc ils devraient être... voilà, il devrait être remis à la loi. C'est, voilà.
Du point de vue du propriétaire qui voit son locataire ne pas payer. Donc, qu'est-ce qui existe,
Yves? Alors, c'est vrai qu'il y a, hélas, des situations d'impayés qui posent de gros problèmes à des propriétaires, qui peuvent d'ailleurs avoir des prêts en cours de remboursement, et le fait de ne pas pouvoir encaisser son loyer peut poser de vrais problèmes. Alors, ce qu'il faut savoir, vous parliez de la situation des hôteliers et des clients d'hôtels. En fait, dans le droit français, lorsqu'on doit faire intervenir la police, notamment, c'est que soit on dispose d'un titre exécutoire, soit qu'il s'agit d'une d'une infraction pénale. La matière civile et la matière pénale sont l'objet de réglementations et de procédures complètement étanches. S'agissant, par exemple, donc, du ce qu'on appelle le délit de grivellerie en milieu hôtelier, le fait de ne pas vouloir payer sa chambre ou au contraire de partir sans payer, là c'est une sanction pénale qui est prévue par un article spécial du code pénal pour lesquels on peut porter plainte auprès des autorités de police ou de gendarmerie. Et pour lequel les sanctions et les personnes qui sont prises en flagrant délit de cette infraction, de ce délit plutôt, sont retransmises, enfin sont produites devant les tribunaux correctionnels. En matière de domicile, de location à l'année pour un locataire ordinaire, on est sur une matière civile. Les sanctions par rapport à l'impayé font l'objet de procédures devant les tribunaux d'instance et non pas devant le tribunal correctionnel. Et je dirais que le recours à la force publique, s'il intervient, c'est en bout de procédure lorsque un jugement a été rendu et que le préfet, donc, sommet d'exécuter la sentence, donc le jugement d'expulsion, doit mettre à disposition les forces de l'ordre public, donc les forces de gendarmerie ou de police, pour libérer les lieux. Donc, les deux situations sont quand même très différentes. Je dirais que la personne malhonnête qui volontairement veut escroquer, et notamment sur le terrain du droit commercial, fait l'objet de sanctions précisément prévues par le code pénal. En matière civile, c'est plus compliqué. Il faut arriver à démontrer la malveillance, souvent, et la notion de domicile, s'agissant d'un locataire qui est là à l'année, et non pas d'une résidence touristique, comme un touriste peut l'être dans un hôtel, s'agissant d'un domicile, la protection est assez grande, et c'est vrai que la démonstration sur l'impayé, la résiliation du bail, le fait que le non-respect par le locataire de son obligation de payer à date régulière le montant du loyer, nécessite une décision du juge d'instance, c'est un préalable obligatoire, avant que le propriétaire puisse récupérer son bien. C'est toujours difficile dans un texte de trancher à l'avance en prévoyant une sanction sans avoir à régler, je dirais, les circonstances particulières qui sont applicables. Et en matière civile, eh bien, il faut faire la démonstration que le locataire n'a pas la possibilité de mettre en place un plan d'apurement, n'a pas d'autre solution et doit quitter les lieux. Et ça, c'est une procédure, encore une fois, c'est vrai, qui prend un peu de temps, qui aboutit. Hein. Il ne faut pas croire qu'à l'heure actuelle, tous les textes sont en faveur des locataires. Il y a des expulsions qui sont prononcées assez régulièrement, même s'il y a une période de protection hivernale, on le sait, entre novembre et le 1er avril. Mais il y a régulièrement des expulsions. Alors, il y a aussi, je dirais, concernant les locataires, parce que toutes les situations d'impayés ne sont pas des situations de mauvais payeurs et d'escrocs qui ont organisé leur situation d'insolvabilité. Il y a aussi des gens qui sont en difficulté. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi des filets sociaux, des dispositifs comme le Fonds de Solidarité Logement qui peuvent permettre notamment d'indemniser le propriétaire, donc d'être indemnisé des sommes que le locataire n'a pas pu directement lui régler. Et ces dispositifs doivent être actionnés par le concours des travailleurs sociaux qui sont là aussi à disposition du public, mais aussi des propriétaires.
Ce qui explique que la procédure est longue.
Oui, ça prend du temps et on parle souvent d'un an. Bon, quelquefois ça peut être un peu plus rapide, mais comme au milieu il y a évidemment cette période de protection, de trêve hivernale, en règle générale, le délai pour obtenir la libération effective du logement pour lequel un locataire était en impayé prend à peu près ces délais de 10 à 12 mois.
Ouais, donc quasiment un an, ce que nous disait André tout à l'heure. Merci André pour votre appel. Yves Morel de l'ADIL, l'Agence départementale d'information sur le logement, et notre expert du jour venait lui poser vos questions, que vous soyez propriétaire, comme c'était le cas pour André, ou locataire. 04 66 21 36 37. Et dans quelques minutes, nous allons parler de bail avec José de Nîmes.
C'est nouveau.
Patrick Fiori et Patrick Bruel, Corsica.
Et c'est à découvrir sur France Bleu Gard-Lozère. France Bleu Gard-Lozère. France Bleu Gard-Lozère. France Bleu Gard-Lozère. France Bleu Gard-Lozère.
Inusco. Imbalzama di purezza. generosa e accogliente, si rivolte e si rivela. Somo disprezza soliente,
Patrick pour le prix d'un Patrick Fiori, Patrick Bruel, Corsica sur France Bleu Gard-Lozère. Dans les experts aujourd'hui, il est question de logement, que vous soyez propriétaire ou encore locataire, vous avez besoin d'informations, vous avez des questions, cela tombe bien. Notre expert du jour est Yves Morel de l'ADIL, l'agence départementale d'information sur le logement. Venez lui poser toutes vos questions au 04 66 21 36 37. Et José a une question pour vous depuis Nîmes. Yves, bonjour José.
Bonjour à vous. J'ai deux petites questions. L'exemple, j'ai signé un bail de location il y a à peu près 3 ans.
Oui.
Aujourd'hui, je voulais savoir si la loi a changé. Est-ce que je suis toujours dans l'obligation de donner 3 mois de congé suite à un départ?
Alors, je suppose que ça n'est, c'est une location non meublée, je suppose.
Ah, tout à fait, non meublé, strictement, on va dire une location de propriétaire à propriétaire, voilà. Et en même temps, une deuxième question, savoir combien de temps il a pour me rendre ma caution.
Alors, juste une chose, Yves, avant de répondre, juste José, il faudrait que vous baissiez, même éteindre votre radio derrière, puisqu'on s'entend en écho, en fait.
Ah, alors, parfait, on s'entend en écho. Alors, je vais continuer.
Juste le temps d'éteindre la radio et du coup Yves Morel de la DIL va répondre à cette première question et puis derrière j'ai compris qu'il y avait une deuxième question.
Je commence par le problème du préavis de congé quand on est locataire. C'est vrai que le préavis de 3 mois c'est le délai de droit commun et la loi Allure n'a pas changé ce délai de base. Par contre elle a étendu le nombre de situations où on peut bénéficier à titre dérogatoire d'un préavis réduit. Il y a une liste donnée donc par la loi concernant les situations où on peut donner un préavis réduit à 1 mois. On avait déjà, par exemple, la mutation professionnelle, la perte d'emploi, le fait de trouver un premier emploi. Eh bien, la loi Allure a rajouté un certain nombre de bénéficiaires. Par exemple, aux côtés des bénéficiaires du RSA, aujourd'hui, les bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé peuvent eux aussi voir leur préavis réduit à 1 mois. Concernant la protection des personnes âgées aussi, il y avait, jusqu'à présent, il fallait avoir plus de 70 ans et un revenu inférieur une fois et demi le SMIC. La loi Allure a abaissé cet âge à 65 ans, donc je ne vais pas énumérer tous les cas de figure, mais il y a effectivement plus de situations, plus de cas dérogatoires où l'on peut donner un préavis réduit à 1 mois. Mais lorsqu'on n'est pas strictement dans l'une de ces situations, le préavis du locataire reste de 3 mois, 3 mois à tout moment au cours de la location. Alors, la question accessoire de José, c'était le délai de restitution du dépôt de garantie, ce qu'on appelle communément la caution par le propriétaire. Alors là aussi, la loi Allure a changé un petit peu la donne. 2 cas de figure. Si sur l'état des lieux de sortie, il n'y a aucune dégradation. Si en clair, vous avez restitué un logement dans le même état que celui que vous aviez trouvé. À ce moment-là, le propriétaire dispose d'un mois seulement pour vous restituer le dépôt de garantie. On estime qu'il doit simplement faire le point sur les charges éventuelles dont vous pourriez être redevable, et il a 1 mois pour le faire, sinon il doit vous restituer de toute façon ce dépôt de garantie. Si par contre il y avait des dégradations, s'il y avait des points pour lesquels le propriétaire devra faire réaliser des réparations, là le délai c'est le même qu'antérieurement, c'est 2 mois après la remise des clés pour vous restituer le dépôt de garantie. Et une dernière nouveauté qui était apportée par la loi Allure, donc depuis mars 2014, si le propriétaire ne restitue pas au-delà d'1 mois s'il n'y a pas de dégradation, ou au-delà de 2 mois s'il y avait quelques dégradations notées, il est redevable au locataire d'un intérêt de retard égal à 10% donc des sommes dues par mois de retard. Donc c'est une pénalité qui cumulativement va quand même contraindre les propriétaires à respecter ces délais. Sinon, ça peut coûter cher à l'arrivée.
Donc, un mois sans dégradation, deux mois avec dégradation à la suite de l'état des lieux de sortie. Merci, José, depuis Nîmes, pour votre appel. Marie-Josée, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, Hugo. Bonjour, monsieur Morel. Voilà, moi, j'ai deux questions aussi. Mm-hmm. La première, c'est j'ai dû changer. J'avais des volets battants qui étaient vraiment en mauvais état.
Oui.
Donc, j'ai changé pour un volet roulant électrique.
Mm-hmm.
Je voulais savoir si je pouvais répercuter quelque chose sur le loyer de mon locataire.
Alors, il y a deux aspects à votre question. Le premier, c'est que lorsqu'on est obligé de remplacer un équipement, notamment parce qu'il est vétuste, on n'est jamais en possibilité d'en demander le remboursement au locataire parce que la vétusté n'est jamais locative. Par contre, quand on substitue à un équipement antérieur qui n'avait pas la même fonctionnalité, avec par exemple un fonctionnement manuel, alors que là, vous dotez votre logement de volets électriques, c'est une dépense qui peut être assimilée à de l'amélioration au confort technique et à un relève du niveau d'équipement, mais il faut l'avoir négocié au préalable avec votre locataire. En clair, la loi permet au propriétaire d'augmenter un loyer, donc de pratiquer une majoration consécutive à des travaux d'amélioration, pour autant que ces travaux d'amélioration ont bien été acceptés par le locataire, et pour autant qu'on aura pu en négocier le montant avec le locataire. Donc, parlez-en à votre locataire, dites-lui que vous avez fait un effort concernant cette amélioration, puisque désormais il a des volets roulants électriques,
oui.
Et s'il en est d'accord, vous pourrez pratiquer un surplus, donc une majoration au loyer qui vous permettra d'amortir la dépense d'investissement que vous venez de réaliser.
Marie-Josée, on vous garde, hein, vous aviez une deuxième question, vous allez pouvoir la poser à Yves Morel de la DIL, l'agence départementale d'information sur le logement, dans quelques petites secondes. On revient dans les experts.
Les experts sur France Bleu Gard-Lozère avec Hugo Martinez.
France Bleu. Courses ensemble, plein champ chaque matin avec Hermine Fortin. Les pronostics des courses, votre rendez-vous quotidien chaque matin à 7h-20. Et les résultats dans les flashs de l'après-midi sur France Bleu Gard-Lozère. L'été, à moi, c'est les huîtres, évidemment. Nature ou préparée, à l'apéro ou au resto, en barbecue ou sur un plateau. En fait, les huîtres, c'est comme on veut. Et c'est sur toutes les côtes françaises.
Les huîtres, vous n'avez pas fini de les aimer.
La tournée d'été France Bleu Midi Libre vous emmène à la découverte des richesses de la région Languedoc-Roussillon.
Demain, retrouvez-nous au Pont du Gard pour une journée d'animation et de cadeaux. Rendez-vous de 10h à 16h sur l'esplanade devant le restaurant Rive Droite au Pont du Gard.
La tournée d'été France Bleu Midi Libre
avec la région Languedoc-Roussillon, Perrier et les Seigneuriales, la référence des résidences seniors.
Du Vigan à Barre des Cévennes, à Lédignan et à Mérues, France Bleu Gard-Lozère, écoutez, on est bien ensemble.
Et on fait la route ensemble sur France Bleu Gard-Lozère. Un coup d'œil à vos conditions de circulation. Actuellement, à 7, à 9, à 54, à 75. C'est assez fluide autour de Nîmes et sur le Gard également. Et puis sur le réseau secondaire, pas de point de blocage actuellement à signaler. Vacances oblige. Tout roule. Si vous avez des infos pour nous, partagez vos infos 04 66 21 36 37. Et avant de prendre la route, consultez l'état du trafic sur francebleu.fr. On parle logement aujourd'hui dans les experts sur France Bleu Gard-Lozère avec notre invité du jour, notre expert Yves Morel de l'ADIL, l'agence départementale d'information sur le logement. Marie-Josée était avec nous tout à l'heure, elle vous a posé une question, Yves, autour d'achat de volets. Elle est propriétaire, peut-elle répercuter cet achat de volets neuf sur son loyer? Mais Marie-Josée, vous aviez une deuxième question pour Yves Morel.
Oui, excusez-moi, je vais quand même revenir sur la première, parce que par rapport à cette augmentation, de quel montant je peux...
Comme je vous l'ai indiqué, la base, évidemment, c'est l'investissement que vous avez réalisé et la durée d'amortissement, mais ça n'est pas un montant que vous pouvez imposer, donc il va falloir le négocier avec le locataire. Donc je dirais que la limite pour vous, c'est de calculer donc la durée d'amortissement de cet équipement et sa durée de vie avec un certain nombre de mois, vous allez répercuter son coût pour voir ce que ça donne par mois. Par contre, il faut évidemment que vous l'ayez négocié. Donc la loi ne vous donne pas un pourcentage, elle dit pas c'est 10% de l'investissement, c'est 20%. C'est une négociation libre, pour autant que donc votre locataire qui va considérer que cet équipement lui apporte un supplément de confort, un service nouveau, sera prêt à l'accepter. Et il vaudra mieux que vous fassiez à ce moment-là un avenant, c'est-à-dire sur un papier libre, vous prévoyez par écrit que dorénavant, à partir de telle date, en contrepartie de tels et tels travaux que vous avez réalisés, le locataire accepte que la valeur du loyer passe à tel montant. Et c'est cet accord, en fait, qui n'est n'est pas limité dans un montant, mais qui doit être accepté par le locataire, qui fixera la nouvelle base du loyer exigible.
Et votre deuxième question, Marie-Josée ?
Alors, ma deuxième question, c'était par rapport à des canalisations qui ont été bouchées. Mm-hmm. Donc, j'ai fait venir un plombier pour retirer ça. Et je voulais savoir si ça incombait à moi ou à mon locataire. Mais la différence, c'est que ma maison, moi, que j'ai quittée parce que j'ai dû habiter ailleurs et que j'ai mise en location, pendant une année, elle a été louée 3-4 fois pendant une semaine pour des locations de vacances. Mmh. Et puis, elle n'est louée à ce nouveau locataire que depuis le mois d'octobre l'année dernière.
D'accord. Voilà. Alors, je dirais que le point de départ, quand une canalisation se bouche, c'est d'arriver à déterminer l'origine. Si, en fait, par exemple, c'est un problème de pente, de mauvaise implantation des canalisations, ou, très ponctuellement, si c'est un objet qui a pu être jeté par mégarde, donc, et qui est venu qui a été jeté par dans les toilettes et qui est venu boucher, obstruer la canalisation et nécessiter l'intervention d'un professionnel. Dans le premier cas de figure, évidemment, les problèmes de pente, les problèmes de mauvaise implantation ne peuvent pas être imputables au locataire et c'est au propriétaire à subir les travaux et le débouchage régulier s'il y a un problème de conception à l'origine. Dans le deuxième cas de figure, il peut être difficile de déterminer qui est à l'origine si on a eu plusieurs locataires qui se sont succédés sur le même logement. Évidemment, ça n'est pas au dernier entrant à supporter des dépenses dont l'origine serait imputable au locataire précédent. Donc ça peut être un peu difficile. Là aussi, il va falloir chercher une négociation. Vous pourriez, si vous aviez la preuve que c'est bien, je ne sais pas, par exemple, si on a retrouvé un jouet ou un objet qui aurait pu donc appartenir au locataire et qui déterminerait que c'était bien sa responsabilité dans le bouchage de cette canalisation, vous pourriez évidemment exiger le remboursement puisqu'il y aurait une responsabilité en cause. Mais si vous ne pouvez pas arriver à faire cette démonstration, le locataire pourrait refuser de régler cette dépense en faisant état qu'elle a pu être causée par le comportement du locataire
rien
précédent.
Rien ne prouve que c'est lui, bien sûr.
Voilà. Donc c'est un peu une situation de fait pour laquelle je ne pourrais pas, hélas, vous donner une certitude quant à la réponse.
Merci beaucoup Marie-Josée, en tout cas, de votre appel depuis Marguerite. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour.
Vous êtes à Bouillargues et vous avez une question pour Yves Morel de la DIL, notre expert du jour.
Voilà, bonjour Monsieur Morel.
Bonjour.
Voilà, je me permets de vous appeler parce que bon, je suis locataire depuis 13 ans dans un appartement en premier étage.
Oui.
Depuis pas mal d'années, il y a eu des travaux qui ont été faits dans la toiture qui a été refaite entièrement et on a supprimé les pare-feuilles qu'il y avait. Donc, à partir de là, l'appartement a travaillé et j'ai les pavés qui se fendillent de toutes les pièces. Donc, je me posais la question parce qu'entre-temps, début d'année, la maison a été vendue. Et l'ancien propriétaire devait effectuer des travaux qui n'ont pas été faits. Donc, je me posais la question, d'une part, pour si éventuellement je viens déménager concernant ma caution, si ça ne va pas jouer dessus. Et puis, d'autre part, les travaux de mise... aux normes.
Oui, alors c'est vrai que le problème d'un revêtement qui s'endit, qui peut se casser et qui peut donc poser des problèmes de sécurité, provoquer une chute parce qu'on peut buter contre des carrelages qui sont plus en place, il faut que vous en fassiez le signalement officiellement. Le mieux, c'est de faire une lettre recommandée avec accusé de réception pour qu'il y ait une trace de l'information que vous avez portée à la connaissance du propriétaire. Et le propriétaire actuel, je dirais, ce sera à lui éventuellement s'il estime que ce problème relève d'une malfaçon et qu'il recherche une responsabilité auprès de son vendeur ou auprès des entreprises qui ont réalisé les travaux peut-être à l'origine de ces dysfonctionnements, de ces dégradations. Mais il faut que vous en fassiez le signalement. D'abord, ce signalement vous permettra de demander à ce que des travaux soient réalisés pour que ça ne continue pas à vous poser un problème. Vous êtes censé pouvoir disposer d'un logement avec ce qu'on appelle les normes de décence, et dans les normes de décence on trouve les problèmes liés à la sécurité, donc pouvoir circuler sur un revêtement de sol qui soit normal et qui ne présente pas de dysfonctionnement, et puis sur le problème aussi de la restitution de votre dépôt de garantie le jour où vous partirez, parce que le fait d'avoir signalé la survenance de cet incident en cours de location,
ça le couvre,
vous mettra hors de responsabilité. Oui. Et donc vous avez tout intérêt à faire cette lettre recommandée le plus rapidement possible.
Voilà Jean-Marc de Bouillargues, merci pour votre appel. Alors Alors, désolé, il y a eu beaucoup d'appels hein, pour vous ce matin. Yves Morel de la DIL, malheureusement, le temps pressant, nous n'avons pas pu faire passer tout le monde. Mais vous allez revenir très prochainement.
Je reviens au moins le mois prochain.
Yves Morel de la DIL, l'agence départementale d'information sur le logement. Plus d'infos, www.adil30.org. Bonne journée Yves.
Merci, au revoir Hugo.
Au revoir. Les bonnes affaires arrivent sur France Bleu Gard-Lozère.
Hugo Martinez sur France Bleu Gard-Lozère.